Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, nous sommes le troisième samedi du mois et vous écoutez Angle d'attaque sur 106,6 MHz sur Radio, sur campuslille.com ou sur DAB+, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association tournée vers l'éducation et l'action populaire. Avec pour vous servir aujourd'hui une équipe restreinte, Florent la réalisation, René la science et Christian, Didier étant en escapade automnale, mais il a participé à la préparation de l'émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui à Angle d'attaque ? De Lille. Et soyons précis, de deux quartiers lillois. L'un des quartiers n'en est pas vraiment un, il s'agit de Saint-Sauveur et de sa friche. L'autre est un vrai quartier lillois, le quartier des Bois Blancs, avec un endroit bien précis, le secteur Les Aviateurs. Nous en parlons aujourd'hui parce que ces deux quartiers s'affrontent, y compris sur le plan juridique. La métropole européenne de Lille, si après dénommée Mel, et la ville de Lille, si après dénommée Martine Aubry, avec des associations qui ne veulent pas de ce projet, de ces projets, on dira pourquoi, et qui en ont d'autres de projets et plein d'idées qui vont avec. Ces associations sont représentées aujourd'hui par Bénédicte Vidaillé de l'association Parc, dont René a angle d'attaque et le quasi porte-parole. Bonjour Bénédicte, merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour.
Et deux personnes qui vont représenter les Bois Blancs, c'est Yolande Vindels de l'association Entre Lianes.
Bonjour.
Et donc Aurélien Danvers qui représente l'association DEUR, alors D-E-U, accent circonflexe L apostrophe R hier.
Tout à voilà, fait. Bonjour.
Qui montre qu'il faut un peu d'air quand même du côté de ce quartier. Voilà. Je précise aux auditeurs, aux auditrices que nous avions prévu une émission consacrée uniquement à Saint-Sauveur, mais qu'à la demande de Bénédicte et vu l'enjeu, nous consacrons une partie à l'île de l'émission sur au Bois Blanc. Ben, c'est René qui va ouvrir le bal, si j'ose dire.
Oui, eh bien, tout d'abord, une première question, puisque là, on a affaire à un affrontement entre un concept de ville dense et un bétonnage de par la mairie et la MEL, contre la création d'un poumon vert. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par une présentation de Parc, un peu l'historique et les grandes étapes de la lutte?
Oui, alors il faut rappeler peut-être ce que c'est que cette friche. Ce sont 23 hectares au centre de Lille. C'est une ancienne friche ferroviaire qui a cessé son activité en 2003. Et il y a eu un projet donc de la ville, mais en fait c'est vraiment le projet emblématique de Martine Aubry. Ça a été de construire 2500 logements, donc ce qui fait à peu près 5500 habitants. 60 000 mètres carrés de bureaux, 20 à 30 000 mètres carrés de surface commerciale, 3,4 hectares de jardin, donc ce qui est tout petit, hein, puisque JB Lebas est annoncé officiellement à 3 hectares, donc c'est quasi l'équivalent. Et puis un complexe aquatique géant avec 5 bassins, dont un bassin olympique et un bassin extérieur de 50 mètres ouvert toute l'année, une fosse de plongée de 42 mètres 50 de profondeur qui est annoncée comme la plus grande fosse de plongée, enfin la plus profonde fosse de plongée européenne, et puis des restaurants, etc. Donc un énorme centre aquatique. C'est un projet qui commence à être pensé à la fin des années 2000, moment où la ville fait un séminaire avec des urbanistes, des architectes, etc., pour penser en fait son développement et où sont les réserves foncières qui sont identifiées. Elles sont à trois endroits, donc il y a l'île sud, Bois Blanc, dont on parlera tout à l'heure, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment important que les amis de Bois Blanc soient là aussi, et puis Saint-Sauveur. Et à partir de là, eh bien, ce projet va émerger. C'est un projet de densification urbaine, mais qu'on retrouve sur tous les projets en fait de Lamel. Donc même si Saint-Sauveur c'est emblématique, ça ne concerne pas que Saint-Sauveur. Donc un projet de densification urbaine qui s'appuie sur deux idées. Donc la première idée, c'est la question d'attractivité du territoire. Hein, donc on concentre des ressources sur une ville-centre, une métropole, et on va attirer des populations favorisées, on va attirer des activités dans une logique de croissance et de compétition entre territoires. C'est vraiment cette logique d'attractivité, c'est une conception néolibérale en fait du territoire, avec des territoires qui sont en compétition les uns avec les autres, avec des villes métropoles voire mégalopoles. Et c'est d'ailleurs une stratégie qui ne fonctionne pas très bien, comme l'ont montré des chercheurs, par exemple, de l'ILIN, donc en histoire, en économie, en sciences politiques, en sociologie, qui montrent que, en fait, ça renforce les inégalités à la fois territoriales et sociales. Oui, donc ça, c'est le premier principe de cette vision-là. Et puis leur deuxième vision, c'est leur deuxième argument, c'est qu'il faudrait préserver les terres agricoles, ce qui est en fait totalement faux, parce que ce qui se passe, c'est que entre 2003 et 2019, donc c'est la période en fait du premier plan local d'urbanisme, il va y avoir 1300 hectares de terres agricoles qui vont être consommées dans la métropole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on agrandit et qu'on densifie la ville-centre, il faut derrière développer, enfin il faut, c'est leur conception, développer des infrastructures, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques, etc. Donc on va aller grignoter en fait sur les terres agricoles. Enfin c'est plus que grignoter, hein, c'est bouffer à pleines dents les terres agricoles. Voilà. Et donc, c'est un argument qui ne tient pas du tout, cette idée que pour préserver les terres agricoles, on évite de construire en centre-ville, parce que les deux, en fait, vont de pair. La trame de fond pour la MEL, pour la ville, pour le conseil régional, c'est qu'une friche, c'est un terrain à l'abandon qui n'a pas de valeur foncière, qui n'a pas, et d'ailleurs, dans les documents, on lit que la friche Saint-Sauveur, là, je cite l'étude d'impact, c'est un no man's land sans valeur patrimoniale, et donc qu'il faut valoriser. La valorisation, là, c'est 250 000 m² de surface de construction, donc ça fait à peu près 1 milliard. Donc nous, on s'oppose à un projet qui est censé être valorisé à 1 milliard. Et pourquoi, en fait, on conteste ce projet ? C'est pas du tout gratuit, c'est pas du tout parce qu'un matin, on s'est réveillé en se disant « Ah bah tiens, on va aller s'opposer à Lamel ou à Martine Aubry ». Non, nous, c'est que ce qu'on considère, c'est qu'on a changé de contexte. On est vraiment dans un contexte où on doit raisonner autrement. Il y a eu la COP21. On est quand même tous bien au courant qu'on est dans un désastre écologique sans nom, qu'on a des problèmes de ressources. Alors, les ressources, par exemple, en air, en terre et en eau. Donc là, on va parler de la question de l'eau dans cette émission. Et que ce modèle d'intensification urbaine, en fait, il participe d'un cycle infernal qui produit en fait la crise environnementale et sociale globale que nous traversons. Et donc, nous, notre raisonnement, c'est de dire on est sur un territoire fini, on a des ressources finies en eau, en air, en terre, il faut en tenir compte et on demande zéro construction, on demande de soutenir et de développer la nature qui s'est quand même bien, justement, qui est apparu sur ce lieu depuis, qui s'est bien déployé depuis 2003. Et il faut aussi rappeler que Lille est quand même une des villes les plus pauvres de France en matière d'espace vert public par habitant. Donc rappelons ce chiffre, c'est 14 mètres carrés par habitant, en comptant les cimetières, les ronds-points, les talus, etc. Sachant que les 50 premières villes en matière de nombre d'habitants, on est en moyenne à 48 mètres carrés. Donc vous voyez, entre 14 et 48 mètres carrés, il y a de la marge. Et en plus à Lille, deuxième problème, c'est que cette nature, elle est concentrée à 80% dans les quartiers privilégiés, c'est-à-dire Vauban et le Vieux-Lille, puisque c'est la Citadelle et le Jardin Vauban, qui en fait est un très beau parc. Hein, voilà. Donc nous, pour des questions de santé publique et de justice sociale et d'habitabilité du territoire, bon, c'est un barbarisme, là, ce mot, mais enfin, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire quand on est habitant de Lille. Si on veut continuer à pouvoir y habiter, il faut absolument changer le modèle et arrêter de densifier la ville.
D'accord. Alors, tu fais les questions et les réponses quasiment, Bénédicte. Non, alors, donc, du coup, on a bien compris qu'il y a contestation. Mais comment s'est créée cette contestation et à quel moment?
Alors, cette contestation, elle émerge un petit peu en 2015, mais c'est très soft. Ce sont les associations de la Bresse qui rendent un avis, en fait, sur, dans le cadre d'une des premières enquêtes publiques. Mais c'est très soft à l'époque. Et puis, en 2016, est créé le collectif Faites la Friche, qui a une revendication très simple. Faites la Friche dit, mais finalement, on demande l'avis aux habitants, mais cette friche, elle est fermée. Donc, il y a juste la gare Saint-Sauveur qui est ouverte, mais la gare Saint-Sauveur, c'est tout petit, en fait, quand on regarde, hein, c'est à peu près 1,5 hectare. C'est tout petit. Il reste 22 hectares qui sont soustraits au regard et à la pratique, en fait, du public. Donc, ouvrons ce lieu pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle avant de rendre leur avis. Et là, évidemment, refus catégorique. Enfin, je dis évidemment, mais il y a d'autres villes qui ont été beaucoup plus intelligentes, hein, qui, justement, ont permis ce genre d'usage. Mais la ville dit non. Bon. Faites la Friche organise, du coup, des manifestations un peu sauvages, enfin, totalement sauvages, d'ailleurs, totalement illégales. Faites de la musique en 2016, il y a 2000 personnes qui viennent. Et puis, on organise des visites, on organise des manifestations, etc. Ensuite, il y a l'enquête publique. Donc, en 2017, Martine Aubry décide d'ajouter au projet ce centre aquatique, donc gigantesque. Et là, ça commence à ruer vraiment fort dans les brancards. Et nouvelle enquête publique. Et là, beaucoup de gens s'opposent à ça, mais la ville n'en tient absolument pas compte. Donc, c'est là que Parc va être créé. Donc, Parc, c'est une association. Donc, contrairement à Faites la Friche, qui est un collectif, Parc, c'est une association parce que dans l'hypothèse où on devrait aller en justice, donc on commençait à envisager le fait que la seule manière d'arrêter la course folle de cette politique, ce serait en fait d'aller en justice, eh bien, il fallait une association avec un objet exclusif qui posait en fait cette possibilité d'aller en justice.
On rappelle ce que signifie Parc, s'il te plaît.
Alors, c'est protection, aménagement, réappropriation citoyenne de Saint-Sauveur, de la friche Saint-Sauveur et de son belvédère.
Merci.
Voilà. Et donc, en 2018, on crée Parc. Alors, on crée Parc en mai 2018, au moment où on attend les conclusions, en fait, du commissaire enquêteur sur l'enquête publique, la nouvelle enquête publique.
De 2018.
Il faut dire qu'en 2018, on pouvait encore créer des associations comme ça de manière assez...
C'était avant rapide. La loi Elan.
Voilà. Avant la loi Elan, donc maintenant, il y a quand même un truc qu'il faut comprendre, ce qui nous coupe l'herbe sous le pied, c'est que maintenant, il faut avoir un an d'existence pour pouvoir, quand on est une association, pour pouvoir rester en justice sur des projets immobiliers, des projets d'aménagement, etc. Donc, inutile de dire que les aménageurs, ils ne nous disent pas un an, plus d'un an avant, ce qu'ils vont faire. Donc, c'est un truc qui sape, en fait, la possibilité d'agir pour les associations écologistes. Voilà. Et donc... On va avoir un objet juridique là vraiment pour pouvoir aller en justice et c'est ce qu'on va faire. Alors je pense qu'on va peut-être y revenir. Je vais peut-être pas tout développer maintenant.
Oui, c'est que sur donc Parc a développé quand même outre les possibilités d'ester en justice. Il y a diverses actions qui ont été développées. D'abord, le manifeste, notamment, et ses 6 principes par rapport à la friche, la ZAP, l'organisation de débats avec les formations politiques à Sciences Po, comme en 2018 et 2019, des campagnes d'information du public et des riverains, bien sûr, développement d'un argumentaire, etc.
Et... Oui, alors en effet, il y a 3 volets dans notre action. Il y a vraiment un volet d'information, de sensibilisation, de communication, non seulement sur la friche, mais sur la contestation du cadre global de densification de la ville. Donc c'est vraiment, là, on est à un niveau politique beaucoup plus global, c'est-à-dire dépassons juste ce projet pour voir ce qui est en train de se passer au niveau de la métropole. C'est complètement fou. Et c'est pour cette raison que nos camarades de Bois Blanc vont parler après. Donc ça, c'est le premier volet. Après, il y a le deuxième volet qui est l'action juridique. Donc là, on peut en effet rappeler qu'en 2018, on a gagné au tribunal, donc en septembre 2018, on a attaqué en fait la délibération de la MEL qui, suite à l'enquête publique et malgré les réserves du commissaire enquêteur en juin, qui avait voté comme un seul homme, hein, donc la MEL avait voté de s'asseoir sur les recommandations, enfin sur les réserves du commissaire enquêteur qui concernaient quand même l'eau, l'air et la nature, c'était quand même pas rien, et avait décidé de passer outre et de voter l'intérêt général du projet. Donc nous, on attaque en septembre 2018 cette délibération. Et on l'attaque de deux manières. Donc on l'attaque sur le fond et on l'attaque aussi, on fait un recours en référé.
Un référé
qui demande au juge que tant que ça n'est pas jugé sur le fond, parce qu'on sait très bien que les délais de la justice sont longs, on demande de bloquer le projet. Et en fait, on a eu gain de cause, ce qui est extrêmement rare en droit de l'environnement. Donc là, c'était vraiment une victoire énorme. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la première réaction de la mairie, donc de Stanislas Zandivel, adjoint à l'urbanisme, et de Martine Aubry, c'est de dire « cela ne changera rien à notre calendrier ». Bon, on est quand même en 2022, bientôt en 2023, donc on a quand même bloqué ça. Et puis, sur le fond, en octobre 2021, le 14 octobre, la justice nous a également donné raison en annulant donc l'enquête publique de 2018 et en demandant aussi une mise à jour de l'enquête publique sur la loi sur l'eau, dont on va certainement parler. Donc ça, c'est le deuxième volet, en fait, c'est le volet juridique de notre association. Et troisième volet, quand même, dont il faut parler, parce que c'est très important, c'est d'occuper le terrain. Occuper le terrain, c'est ce qu'on fait depuis 2016, en fait. C'est ce qu'on avait commencé à faire avec Fête la Friche. On occupe le terrain, notamment alors la partie qui s'appelle le Belvédère. On a planté à peu près 500 arbres qui maintenant commencent à prendre du volume. On entretient le terrain parce que donc on fauche. On a fait des potagers. On a fait des constructions. Souvenez-vous, une des premières constructions qui était assez drôle, c'était un beffroi. On appelle le Béfuck, donc qui est une sorte de sculpture en cagette en forme de doigt d'honneur qui fait face au beffroi de la mairie. On avait fait un gourbi, on a fait donc il y a eu une pyramide.
La pyramide,
en cagette, voilà. Et alors certaines de les sculptures malheureusement ont brûlé. Et puis on a fait un bateau pirate qui nous sert de lieu pour stocker du matériel, pour avoir des espaces pour poser des choses et puis pour nous réunir.
Et le pont d'Aigueux aussi qui relie les deux parties de la Friche.
Voilà, le pont d'Aigueux qui relie les deux parties de la Friche. Donc c'est vrai que on a fait énormément de choses depuis 2016 pour faire en sorte qu'on puisse fréquenter ce lieu, qu'on puisse le défendre, qu'on puisse sensibiliser à la cause.
Et une occupation pas sympa du tout quand même aussi, hein, qui était un squat.
Oui, alors. Une friche, c'est un lieu. Qu'est-ce que c'est qu'une friche ? C'est un lieu refuge, c'est un lieu d'accueil de tout ce qui n'est pas accueilli ailleurs. Donc, par exemple, pour la faune et la flore, mais c'est-à-dire, on a par exemple retrouvé, on a identifié en 2017 une linotte mélodieuse. La linotte mélodieuse, normalement, c'est un oiseau qu'on trouve plutôt à l'extérieur des villes, mais qui vient ici parce que c'est un des derniers endroits refuge. Donc, c'est un lieu refuge. Donc, il y a aussi dans les lieux refuges, c'est aussi un lieu refuge de la marginalité, donc de la drogue. Donc, il y a la drogue et la prostitution. Donc, il faut dire qu'il y a en effet de la drogue et de la prostitution à Saint-Sauveur. Il y a eu aussi des migrants. Bon, maintenant, on n'est plus trop sur un profil migrant. Hein, on est plutôt sur un profil de deal de drogue et de prostitution. Voilà.
Je crois qu'il fallait le dire de toute façon.
Oui, il faut le dire. Oui.
Mais on revient donc aux questions juridiques. Et le deuxième moment, c'est juillet. C'est cette deuxième enquête publique de juillet 2022, alors.
La loi sur l'eau, comme c'est ça.
Oui, alors, en effet, l'enquête publique qui vient d'être relancée là, par la ville, elle fait suite à notre action juridique, puisque la MEL avait un an à partir du 14 octobre pour se mettre à jour sur la loi sur l'eau. Donc l'enquête loi sur l'eau, elle n'avait pas été annulée, contrairement à l'enquête suivante sur l'intérêt général, qui, elle, a été complètement annulée par la justice.
Oui. Hein.
Mais donc là, c'était sur l'enquête loi sur l'eau. Donc elle a relancé une enquête loi sur l'eau complétant son dossier. Évidemment, nous, on a trouvé plein de failles, encore une fois, dans ce dossier. Alors, il faut quand même se rendre compte que c'est vraiment David contre Goliath. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ont... Ils ont 10 mois pour mettre, actualiser leur étude d'impact, etc. Et puis nous, ensuite, citoyens, habitants, on a 1 mois.
Oui. Pour répondre à l'enquête publique.
Répondre à l'enquête publique, donner notre avis, sachant que les documents qui nous ont été soumis, c'est quasiment 3000 pages. C'est 2797 pages exactement. C'est 23 documents PDF, donc c'est vraiment une masse de documents énorme. Donc là, on s'était quand même préparé, on a mis en place un groupe de travail avec une quinzaine de personnes très compétentes, enfin qui ont des savoirs sur ces aspects liés à l'eau. Et on a identifié donc un certain nombre de failles qui sont très graves. Alors, d'abord des failles sur, encore une fois, une sous-estimation des risques par rapport à la question de l'eau, donc la nappe de la craie, puisque notamment avec cette fosse de plongée de 42,50 m, donc c'est un truc assez fou. Et alors là, dans le cadre de cette enquête publique, là, Lamel a été obligée de donner des détails techniques sur comment elle comptait réaliser ce chantier. Et nous, on se rend compte que des choses, des éléments historiques très importants, comme le fait, par exemple, que cette fosse de plongée, enfin ce centre aquatique, il va être construit précisément à l'endroit où il y avait les fondations, des fortifications. Alors, c'est écrit dans une annexe quelque part qu'en effet, il y a bien des fortifications. Mais dans le document principal, c'est complètement omis. Et on fait comme si le centre aquatique était bâti sur un sous-sol à peu près classique. Ce qui est faux, il y a ces fortifications. Ce qui veut dire qu'en fait, les fondations vont devoir être creusées beaucoup plus bas que ce qui est prévu, enfin de ce qui est annoncé, avec tout le risque d'aller taper dans la nappe phréatique, dans la nappe de la craie. Bon, voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on nous assure, parce qu'en fait, au droit de Saint-Sauveur, il y a deux nappes de craie. Les nappes de craie, c'est ce qui alimente en fait les nappes phréatiques. C'est ce qui alimente la consommation en eau de la métropole. On a la nappe donc de la craie. Ensuite, on a des marnes, des argiles, qui sont censées être imperméables. Et enfin, on a la nappe du Carbonifère.
Oui.
Et l'étude nous assure qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de transmission en fait, de pollution entre la nappe de la craie, dans laquelle on va taper pour faire les fondations de ce centre aquatique, et la nappe du Carbonifère. Or, nous, en cherchant, on trouve des documents plus publics du BRGM. Donc, c'est totalement officiel. Hein, c'est le bureau de l'État en fait, qui s'occupe de tout ce qui est production de données géologiques. On trouve des documents officiels qui nous expliquent que dans la région, il y a eu des transferts en fait, de pollution d'une nappe à l'autre. Or, le document sous-estime complètement ça. Donc ça c'est sur les risques qui sont sous-estimés. Deuxième sous-estimation, c'est sur la consommation d'eau. Donc vous voyez, on est quand même dans un contexte où on a été en pénurie d'eau tout l'été. On a eu 11 arrêtés sécheresse depuis 2017 au niveau de la métropole européenne de Lille. On sait qu'il y a une grande fragilité sur la ressource en eau. On a des communes qui sont gardiennes de l'eau, donc sur lesquelles on ne peut pas artificialiser, enfin qui doivent faire très très attention par rapport aux ressources. Et à côté de ça, on a la ville de Lille qui décide de faire un projet pharaonique qui va consommer beaucoup d'eau, 3 fois plus que Max Dormois. Donc c'est ça les données qu'on a obtenues en fait dans le cadre de cette enquête publique. C'est que ce projet, il va consommer 3 fois plus de ressources en eau juste sur le centre aquatique que l'ancienne piscine Max Dormois. Vous vous rendez compte, enfin, c'est quand même c'est une gabegie phénoménale. On se rend compte aussi que quand on intègre tous les habitants, on va arriver à 13% de consommation d'eau supplémentaire si on prend juste le captage d'Emra, par exemple, hein, qui est un des captages qui alimente en eau potable la métropole européenne de Lille. Donc en fait, on est en train d'entasser les habitants et les projets sur un territoire avec des ressources finies en eau dont on ne tient jamais compte. Les politiques ne tiennent jamais compte de cette finitude. Bon voilà, donc c'est ça qu'on a mis en évidence, bon, et beaucoup d'autres choses aussi, mais là j'essaie de faire court.
Oui, là effectivement il y a un changement avec la canicule cet été, qui est la pire depuis 2003. On pourrait peut-être penser que ça fait réfléchir les politiques sur ces questions-là. Et donc c'est un nouvel argument en fait pour vous, même c'est un argument supplémentaire, mais qui compte véritablement.
Oui, tout à fait. En fait, ce que je trouve intéressant et qui nous galvanise d'une certaine manière, enfin galvanise, c'est une galvanisation triste, hein, c'est que l'histoire nous donne raison. depuis le début. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur des problématiques de fond, avec des politiques qui sont toujours rattrapées a posteriori par ce qui est en train de se passer. Là, il faut quand même savoir que dans la métropole, il y a des structures qui ont été fermées, justement, des piscines qui ont été fermées. Dans toute la France, cet été, on a des piscines qui ont été fermées.
Oui.
Au niveau de l'énergie, là, la ville vient d'annoncer qu'elle fermait certaines structures, qu'elle allait chauffer moins, qu'elle prenait des mesures drastiques pour consommer moins d'énergie. Le centre aquatique tel qu'il est prévu, il va multiplier par deux la consommation d'énergie par rapport à Max Dorotmoy. Sachant que c'est la première source de consommation d'énergie pour la ville. Donc comment d'un côté on peut faire ça, proposer ces mesures, et de l'autre maintenir un projet qui est complètement démentiel en fait, en termes de consommation de ressources.
Et justement, à ce sujet, comment expliquer la conclusion du commissaire enquêteur qui a donné un avis favorable sans aucune réserve ni recommandation?
Oui, alors déjà il faut savoir que ça n'est pas le même commissaire enquêteur que celui des précédentes enquêtes publiques, d'accord? C'est un autre commissaire enquêteur qui a été nommé. Les commissaires enquêteurs, ils viennent d'où en général? Ce sont des gens qui sont en retraite, qui ont travaillé en général pour l'administration. Donc déjà, sociologiquement, ce sont des gens qui sont plutôt toujours du côté de l'administration. En général, ça n'avait pas été le cas avec le commissaire enquêteur qu'on avait eu pour les premières enquêtes publiques. C'était un militaire, donc il était un petit peu en distance par rapport aux décideurs publics. Mais bon, voilà, il avait une certaine indépendance. Là, le commissaire enquêteur que nous sommes allés rencontrer, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas respecté la position de neutralité qui aurait dû être la sienne en tant que commissaire enquêteur. C'est-à-dire qu'il nous sortait les arguments de Lamel, alors que ce n'est pas du tout sa position, enfin le rôle qu'il est censé avoir. Il nous disait par exemple, ah oui mais sur la question du logement, quand même, il y a besoin de logement. Alors on devait lui dire, que ça c'était pas dans l'enquête publique ou sur l'eau, ça c'était dans l'enquête publique sur l'intérêt général. Et puis deuxièmement, on devait quand même lui donner nos arguments sur le fait que les logements, enfin voilà, c'est, je ne vais pas forcément les développer ici, mais que c'est un faux argument. Il nous disait, ah oui, mais écoutez, quand même, il y a des avis d'experts agréés dans le dossier d'enquête publique. On lui disait, bah oui, mais déjà dans les premières enquêtes publiques, c'était la même chose. Donc nous, on a réussi quand même à montrer, en allant jusqu'à attaquer en justice, à montrer que on avait beau avoir des avis d'experts agréés, en fait, ça ne tenait pas la route. Où il nous disait, mais c'est quand même très complet, parce que ça fait 3000 pages. Oui, ben ceux d'avant, ils faisaient aussi 3000 pages. Donc voilà le genre d'argumentation qu'on a eu. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que c'est à nous, citoyens et habitants, de nous défendre nous-mêmes, parce qu'on est très mal défendus, et par les décideurs politiques, et par ceux qui sont, enfin, et donc qui sont censés nous représenter, mais aussi toutes ces personnes qui sont du côté de l'administration. Et c'est toujours nous, citoyens et habitants, qui devons montrer où sont les failles, où sont les erreurs, où sont les omissions. Oui. Sinon, personne ne va le faire à notre place.
Et justement, à ce sujet, quels sont les projets maintenant de parc pour par rapport à cette conclusion d'enquête publique? Je crois qu'on parle d'un recours en justice contre le Plus 2 en octobre, une demande de référendum pour la ville de Lille, ce que j'ai entendu.
Oui, alors déjà on va continuer le volet juridique. Donc là, on attend la décision du préfet. On attend la décision du préfet qui doit normalement, valider ou pas, donner son aval par rapport à la loi sur l'eau. Alors il faut quand même se dire que ce préfet, c'est quand même lui qui signe les arrêtés sécheresse.
Oui.
Donc la schizophrénie de l'État de ce côté-là et la schizophrénie des décideurs publics. Hein, on parlait de la schizophrénie de Martine Aubry qui d'un côté ferme des équipements pour économiser de l'énergie et de l'autre côté veut maintenir son centre aquatique. Bon voilà, c'est pas très sain d'un point de vue psychique tout ça, mais bon, on attend quand même la décision du préfet. Si la décision du préfet c'est de maintenir c'est d'aller dans le sens de l'autorisation du projet, on attaquera en justice. On a toujours les mêmes arguments, même on a des arguments de plus en plus étoffés avec le temps. Donc ça, l'aspect juridique, on va continuer. Ensuite, on va continuer à mobiliser au niveau politique sur la question de la densification urbaine et du fait qu'il faut absolument qu'on change de conception de la ville. Et là, on est rassuré parce que justement, on a nos copains là de Bois Blanc qui vont parler après. Mais en fait, on a plein de copains partout, à LM, à Fache, Dans plein d'endroits de la métropole, à la Madeleine, à Lambersart, ce sont exactement les mêmes politiques. Et donc les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, que derrière, on peut contester collectivement et on peut fédérer nos luttes. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut continuer à s'investir sur le terrain, continuer ce qu'on a commencé. C'est-à-dire des arbres qu'on a plantés en 2018, en 2017, ils continuent à pousser. On continue à s'en occuper, on continue à faire nos potagers, on continue à faucher, on continue à être là, à faire aussi des événements. Voilà, donc en tout cas, il faudra faire avec nous.
Mmh. C'est D'accord. la meilleure conclusion qu'on vous pouvait donner, Bénédicte, merci. Je crois qu'il faut savoir aussi que nous, à ATTAC, on soutient votre mouvement, mais on n'est pas les seuls. Il y a 11 associations qui avaient fait l'objet d'un article dans La Voix du Nord qui montre qu'effectivement... Ce projet n'est loin d'être terminé et l'action de la MEL et de la municipalité sont encore bien contestées largement.
Oui, ben merci. Merci pour votre soutien et merci de nous avoir invités.
Je vous en prie. On va passer à la pause musicale.
De quelle cervelle séchée triste, de quel Picasso urbaniste, son essai tour CHLM. Je veux bien qu'il faille du boulot, aussi pour les malades mentaux, mais y'a peut-être des limites quand même. Ou en école d'architecture, donne-t-on des cours de torture? Option cruauté psychiatrique, je pose la question. Où est-ce que bâtir des maisons avec le seul plan d'une prison fait partie de leurs travaux pratiques? Mes questions sont idiotes, oui, mais bon, peut-on devenir comme ça sans raison? Un maniaque du béton armé. Déjà quand ils étaient marmots, rien qu'à les voir jouer au Lego, n'aurait-on pas pu s'inquiéter? Franchement. Enfin aujourd'hui le plus fort, c'est quand je vois tout le monde d'accord pour dire l'horreur de ces cités. Mais que les budgets des mairies, plutôt que de raser ça gratuit, proposent souvent de les rénover.
Petit ouvrage d'art musical.
Mais je m'écrase, je m'emporte pour rien. Je vis pas dans une cage à lapins, mais dans un petit appartement. Un peu plus et j'oubliais que c'est mal vu de s'indigner quand on est pas concerné directement.
Donc c'était les malpolis, interrogation sur les architectes.
Bonne question. On va passer au deuxième sujet, donc les bois blancs, avec Yolande et puis Aurélien.
Auparavant, il y a peut-être, justement comme tu avais abordé en fin de première partie, la fédération d'associations, si tu peux résumer en 2-3 minutes.
Ah oui. Oui, alors la fédération d'associations, c'est ce que je disais avant la pause, c'est que ce qui te donne du courage et de l'espoir, c'est que on n'est plus tout seul. On a des copains à droite, à gauche qui se bougent, qui se mobilisent sur d'autres morceaux du territoire et donc de la métropole. Et on est en train de constituer une fédération justement d'associations. Alors on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre et puis on ne va pas trop communiquer dessus pour l'instant. On ne va pas griller nos cartouches, mais L'idée, c'est vraiment de plus être tout seul dans son coin et de pouvoir échanger nos savoirs, de pouvoir se soutenir, de pouvoir se mobiliser à une échelle plus large. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on laisse la parole.
Modifier le rapport de force.
Et modifier le rapport de force, exactement, parce que c'est vraiment un rapport de force. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va laisser la parole à nos camarades de Bois Blanc.
Oui, eh bien, on va revenir aux camarades de Bois Blanc, donc Yolande et Aurélien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier, qui n'est pas le seul d'ailleurs, Bois Blanc, c'est un peu plus large, tu disais Aurélien, là tout de suite, pendant la pause.
Oui.
Dites-nous un peu ce qui se passe.
Je vais laisser Yolande introduire, Yolande. On s'est répartis un petit peu les rôles avec
tout ça. Ouais. Donc moi, effectivement, je suis Entre-Lianes. Entre-Lianes, c'est une association qui a plus de 10 ans, qui intervient sur la métropole, et en gros, pour faire vite, qui travaille sur le retour de la nature en ville, et on a aussi une grosse préoccupation par rapport à la ressource en eau, on travaille sur les champs captants. Ce que je voulais préciser, c'est effectivement, quand on dit Bois Blanc, en fait, il faut entendre Bois Blanc Marais, parce que le gros projet des rives de la Haute-Deule, qui fait 100 hectares, donc 3 ou 4 fois plus que Saint-Sauveur, est à la fois donc sur Bois Blanc et sur Marais. De l'air, Aurélien nous en parlera, mais il a un périmètre un petit peu plus large, parce qu'il y a des problématiques de quartiers désindustrialisés qui sont identiques. Donc un tout petit peu d'histoire sur Bois Blanc. Avant 1900, c'est un quartier très rural. On a encore dans notre quartier le chemin des Vachers, la plaine des Vachers. On a des noms de maraîchers, beaucoup de maraîchers. On a une terre très belle. Et puis en 1900, on a été brutalement industrialisés. Enfin bon, c'est le cas comme partout. Et brutalement, les usines sont reparties 80 ans plus tard. Donc là, on était dans les années 90 sur des lieux de désolation humaine et paysagère, et surtout avec des terrains très pollués. Donc voilà, un tout petit aperçu. Donc Bois Blanc est juste à côté de l'homme pour ceux qui ne connaissent pas bien le secteur. Alors, dans les années 2000, la MEL développe un projet urbain, donc je l'ai dit, sur 100 hectares, Saint-Sauveur c'est 23, et avec une première phase autour de ce qu'on appelle Euratechnologie, sont les anciennes usines Leblanc-Lafond. Et donc, ce premier périmètre fait 25 hectares, donc autant que Saint-Sauveur, toujours pour se situer un petit peu en termes de volume et d'importance. Alors au départ, c'est un projet urbain qui a une certaine qualité, mais qui très vite s'hyperdensifie. Je vais vous donner un exemple. Donc la première tranche sur 25 hectares, en gros, c'est 150 000 m² de béton à construire. La deuxième tranche qui nous arrive et pour laquelle Entre-Lianes mène un recours avec l'aide de l'air, c'est aussi 150 000 m², mais ça n'est que sur 13 hectares. Donc, donc on voit bien qu'on double la mise là. Et lors d'une réunion de concertation sur les rives de la Haute-Deule, l'une des dernières, qui a eu bien longtemps, c'était devait être en 2017, l'image de référence c'était Porte de Valenciennes, ce qui ne nous a pas calmés. Et cette fois-ci, en même temps que les rives de la Haute-Deule sortent leur deuxième tranche sur 13 hectares, donc plutôt sur le Marais, il y a aussi la troisième tranche qui se met en place sur la pointe des Bois Blancs, et c'est là qu'on retrouve le secteur HLM des aviateurs, avec des logements très sociaux dont nous parlera Aurélien. Voilà, donc une mutation hyper rapide, massive et non négociée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à la place des citoyens, c'est que parfois, et on l'a vu déjà avec Bénédicte, quand il y a des actes attaquables par les citoyens, c'est pas facile, hein, en termes de délai, en termes de volume, en termes de compétences. Mais souvent, en fait, la stratégie, elle a été mise au point auparavant. Et donc sur Bois Blanc, pour faire vite, avant qu'il n'y ait cette zone d'aménagement concerté des rives de la Haute-Deule, il y a eu un schéma directeur. Et ça, le schéma directeur, il n'a pas du tout été négocié, concerté. Il a été révisé et deux fois en intensification. Deux fois, ils ont intensifié le nombre de mètres carrés à construire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on se balade dans les rives de la Haudeul, on ne s'aperçoit pas trop de la densité qui est en cours, encore qu'il y ait des endroits où on est entouré de murs. Il faut savoir que sur les premiers 150 000 mètres carrés que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a 50 000 mètres carrés qui vont s'ajouter. Donc un quart de plus sur le même endroit, autour de Ra Technologies. Donc je crois qu'il faut... La difficulté, c'est d'une part que les documents stratégiques ne sont pas négociés, et souvent, les choses se font petit à petit et on ne se rend pas compte de là où on va. Donc notre difficulté, c'est bien de montrer quel est le problème, enfin qu'est-ce qui nous pend au nez. Donc ce qui nous pend au nez, en gros, c'est la densification qu'on trouve sur Porte de Valenciennes. Voilà, moi c'était les premiers éléments que je voulais dire. Je pense qu'en plus sur le côté pointe des Bois Blancs, là où il y a les aviateurs, il y a aussi la massue de l'Enru, qui est assez violente.
L'Agence nationale de rénovation urbaine.
Voilà.
Oui. Aurélien donc.
Oui, oui, je voulais rajouter, je pense que c'est important de bien souligner. La différence qu'on peut avoir avec des projets comme Saint-Sauveur sur Bois Blanc et sur l'Homme, c'est ce saucissonnage et cette évolution dans le temps. C'est-à-dire que la rénovation des rives de la Haute-Deule a commencé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années et elle se poursuit. Et c'est assez difficile pour les habitants finalement de s'organiser et de lutter contre ces projets. Notamment parce que ils avancent, je dirais, tranquillement dans le temps, un peu comme un bulldozer qui roule, très lentement, et en même temps parce que ils concernent plusieurs quartiers, l'Homme et Lille, avec des acteurs multiples, et donc c'est beaucoup plus difficile de s'organiser, puisque finalement on lutte contre différents acteurs. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, et c'est ce qu'on essaie de faire nous avec Delair, qui est une association qui s'est montée il y a un peu moins d'un an maintenant, c'est-à-dire de réunir finalement l'ensemble des habitants qui habitent sur ce secteur-là, qui réfléchissaient, je dirais, dans leur coin, en se disant c'est pas possible, cette bétonisation pour aller vite, et il faut qu'on se défende. Et c'est pour ça que notamment, donc avec l'aide d'Entreliane, on a déposé un premier recours au tribunal administratif de Lille, notamment contre la partie du projet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la pointe des aviateurs, et donc la rénovation de tout ce secteur-là, de la pointe des Bois Blancs.
Oui, moi j'avais pointé particulièrement sur cette question-là. C'était un public déjà déplacé anciennement.
Oui, de Saint-Sauveur.
De Saint-Sauveur, oui. Mais j'ai bien connu le quartier Saint-Sauveur avant. Et effectivement, ensuite on demande de se déplacer, mais c'est un quartier dont le niveau de pauvreté est très élevé, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Donc on est sur 350 logements sociaux, qu'on qualifie aujourd'hui de très sociaux. C'est les loyers les moins chers de Lille, voilà. Et aujourd'hui, on demande à cette population de partir. Donc, on ne sait pas encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les éléments, mais
c'est tout trouvé à Saint-Sauveur, bien sûr.
Voilà, ouais. Ça, alors, on leur propose pas ça.
C'est plus vers l'extérieur.
C'est plus vers l'extérieur de Lille.
Et voilà. Il y a très peu de logements très sociaux à Saint-Sauveur, oui. Justement. C'est ça
l'entourloupe.
Exactement.
Voilà. Et donc, bien évidemment, quand on regarde le quartier des Bois Blancs aujourd'hui, qui s'est profondément rénové depuis 10 ans, c'est-à-dire que les dents creuses se sont remplies par des immeubles, le quartier commence déjà à être saturé. Donc, forcément, on dit à ses habitants, vous devez partir, mais on n'a pas forcément de logement à vous offrir chez vous, dans votre quartier. Donc, il va falloir aller ailleurs. Voilà. Donc là, il y a ce relogement qui a commencé. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une centaine de logements qui ont été vidés. Il reste 250 logements. Ce relogement-là est en cours aujourd'hui. Et on a du mal, nous, on essaie de, voilà, on travaille aussi à, déjà, essayer de savoir où partent les gens. Et on met en œuvre, là, en ce moment, aussi un accompagnement aux personnes qui souhaitent rester, aux personnes qui souhaitent être accompagnées parce que elles n'ont pas envie de choisir n'importe quel logement. Voilà, il faut aussi bien avoir en tête que ces épisodes-là, c'est des choses très compliquées, notamment sur le plan émotionnel. C'est des choses assez difficiles à vivre pour les habitants. Et donc, c'est compliqué aussi de s'organiser, là encore, pour essayer de soutenir cette population-là qui subit beaucoup.
Bien, on compte sur vous sur deux points. Donc, effectivement, le recours juridique. Voilà. Mmh. Et puis, j'ai lu Hélène qui, sur Eloasio, a expliqué la situation et demande de l'argent.
Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, un tout petit mot pour dire qu'effectivement, Entre-Liane donc, a déposé le recours, que c'est une bagarre qui est pas facile à mener hein, en tant que citoyen. Et donc, dire quand même qu'on attaque la modification du PLU qui permet justement l'intensification sur les rives de la Haudel et sur la pointe des Bas-Blancs, dont Aviateur. Que là aussi, on a des arguments juridiques. Parce qu'en fait, cette modification, en plus, elle a été faite en catimini. C'est-à-dire que l'AMEL a profité d'une modification sur des ajustements techniques pour mettre dans la pochette surprise. Il y a eu Concorde, d'ailleurs, aussi, et Bois-Blanc. Donc, il fallait, à notre sens, au moins une modification dédiée, voire se raccrocher à la révision générale qui a été lancée en même temps. Donc, franchement, il n'y avait pas de raison de se précipiter comme ça.
En fait, alors, ils devaient lancer une enquête publique pour la modification du plus 2.
Oui.
Qu'ils n'ont pas fait.
Voilà. Enfin, si, il y en a eu une, mais elle a été vraiment tous azimuts sur des ajustements techniques. Et ils ont glissé les trois opérations que je viens de citer. Donc, on n'a pas pu discuter correctement, et notamment sur les aviateurs, il n'y a pas eu d'enquête publique. L'enquête publique, la concertation a démarré là au printemps dernier. Je ne sais pas si vous voyez. Mm-hmm. Et les gens des aviateurs ont été avertis en décembre 2019 qu'ils allaient devoir tous déguerpir.
Oui,
il n'y a que 6 barres, 6 blocs, comme disent les gens. Il y a 3 bâtiments qui vont être démolis, 3 qui vont être réhabilités fortement, ce qui fait que personne ne peut tenir dans les lieux. Mais ça n'a pas fait l'objet d'enquête publique initiale, ni de concertation initiale. Et pire, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au schéma directeur. En plus, là, il y a l'ANRU. Et alors, l'ANRU, alors dans ces textes-là, déontologiques, concertation avec les habitants, là, il n'y a eu strictement rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très révoltant. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du recours, on s'appuie aussi sur les problèmes de qualité d'études d'impact. Bon, sur les aviateurs, elle arrive maintenant, donc on verra ce qu'elle est. Sur Rive de la Haudel, il y en a eu une, mais elle a le même défaut que celle de Saint-Sauveur. Donc, et on a d'autres arguments juridiques. Donc, voilà, ce recours est pendant, si je puis dire. Et donc, pendant ce temps-là, on continue à se mobiliser et à intervenir sur le quartier. Et donc, oui, tu parlais de Eloasso. Ben oui, voilà. Donc, pour mener ces recours, il y a besoin d'efforts humains de chacun. Donc là, on y travaille. Mais il y a aussi besoin de faire appel à un avocat, en l'occurrence Muriel Rueff. Et donc, on a lancé une cagnotte. Et donc, avis aux auditeurs pour nous aider dans cette bagarre.
On va devoir un jour inviter Muriel Rueff.
Oui, c'est une idée d'ailleurs.
Très bonne idée parce qu'elle est sur tous les toutes ces luttes avec nous.
Aurélien, sur la mobilisation, alors comment ça marche? Comment vous faites?
Comment on fait? On fait avec les moyens du bord. Donc de l'air, c'est...
Toi, comme tu habites le quartier.
Moi, j'habite le quartier, ouais. J'habite le quartier. Et donc, on s'est mobilisé avec, je le disais, des habitants du quartier des Bois-Blancs, mais aussi de deux quartiers de l'Homme, Montacan et le Marais. Et puis tous les habitants qui ont l'habitude de vivre dans ces quartiers-là aussi, d'y passer, sont les bienvenus pour se mobiliser dans de l'air. Et donc on a essayé déjà de faire connaître l'association, de faire connaître le projet. Ça a été la première chose, et de mobiliser les gens en premier autour du recours. Et maintenant, on continue ce travail-là, c'est-à-dire que on met en place plusieurs groupes de travail en fonction des quartiers. Donc, on va travailler spécifiquement sur la question des aviateurs. J'en parlais, accompagnement des habitants, voilà, essayer de lutter contre ce projet. On va travailler aussi sur la question des espaces verts et la question du logement, c'est-à-dire qu'il suffit pas de râler et de dire non à la bétonisation. À un moment donné, il faut aussi que nous, habitants, on propose des choses, et notamment sur la question du logement, c'est essayer de repérer l'ensemble des endroits qu'on a sur le quartier pour où on pourrait réhabiliter, même chose sur les espaces verts. Voilà, et puis essayer de faire des moments festifs aussi.
Ouais. Simplement, je rajouterais que Delaire n'a que 6 mois, donc oui, en fait, on s'organise. Mmh. Je dis on parce que j'en suis aussi. Et c'est vrai que, par exemple, sur le problème d'espace vert ou espace ouvert, on a fait un calcul. Il nous manque, sur nos trois quartiers, il nous manque 16 hectares. Donc, ça nous permet de nous mobiliser pour travailler avec plusieurs habitants pour trouver les lieux qui vont pouvoir accueillir, répondre à ce besoin de 16 hectares.
C'est quoi ces 16
hectares? Alors, 16 hectares, de 16 hectares. Voilà, on manque de 16 hectares parce nous sommes des quartiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, très industrialisés, donc très serrés, très minéraux. Mmh. Et donc, quand on regarde, par exemple, on a une vue aérienne, on n'est pas loin de Lambersart. Lambersart, la vue aérienne, c'est tout vert. Nous, on regarde, c'est tout gris. Non, bon, voilà, c'est facile à repérer. Et donc, avec un critère de l'OMS que je ne vais pas développer ici, quelqu'un de Delaire qui est plus scientifique, on a fait un calcul de ce qui nous manque comme espace vert. Donc, sur Bois Blanc, pour l'instant, on est à peu près bien loti. Il nous en manque 3 à trouver, mais il y a aussi des espaces verts qui vont disparaître. On est très vigilant.
Ah oui,
et sur Marais, Montacan, alors là, c'est il nous faut 13 hectares. Donc, on a en ligne de mire quelques sites qu'on a déjà bien repérés.
Bien, ben écoutez, on a à peu près fait le tour rapidement, désolé, mais il est important, d'accord avec Bénédicte, il est important que vous parliez des Bois Blancs et d'autres luttes qui sont menées sur l'île. On va passer avec un peu de transition aux questions, je vous en prie. Mmh. À l'actualité d'attaque, si je retrouve mon document.
Oui.
Alors, les actualités d'attaque, c'est l'habitude, c'est René qui s'y colle, mais aujourd'hui c'est moi, c'est exceptionnel, j'espère faire aussi bien. Alors, on commence par quoi, René?
Oui, j'indique les titres. Alors, la question de la taxation des super-profits. La France, championne d'Europe de la non-taxation.
Oui, et c'est normal, puisque Bruno Le Maire, ci-devant ministre de l'économie et des finances, a déclaré « je ne sais pas ce qu'est un super-profit ». Du coup, il ne voit pas comment on pourrait le taxer, c'est QFD. Heureusement qu'à Attac, sur le site, il y a l'Observatoire de la justice fiscale, qui lui sait, et qu'il est allé chercher, oh, pas bien loin, dans le Larousse, en ligne, la définition qui existe bel et bien de super-profit, profit considérable, au-dessus des profits habituels.
Qu'est-ce qui est au-dessus des profits habituels?
Des profits qui ne sont en rien dus à l'investissement, mais seulement à l'envolée des cours du pétrole, du gaz et de l'électricité, dont les bénéficiaires sont les compagnies de cette branche, donc Total Energy, Shell et British Petroleum, évidemment. Mais c'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas Attac qui dit que... Non, c'est l'agence internationale qui dit que ces profits sont dus à l'envolée des cours du pétrole. Mais il n'y a pas que les énergéticiens comme Total ou Engie pour la France. Il y a aussi les transporteurs de conteneurs qui ont fait florès ces jours-ci avec une réalisation de 7,6 milliards de bénéfices au cours du deuxième trimestre 2022. 7,6 milliards de bénéfices. Merci pour tout. Mais droit dans ses bottes, le maire, Bruno Le Maire, affirme moins de taxes rend le pays plus attractif. On sait que c'est complètement faux et qu'il faut admettre, ou alors il faut admettre que la Grèce, la Roumanie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et plus récemment l'Allemagne, en taxant ses compagnies, acceptent chacune d'être moins attractives. Qui l'eût cru ? Le président Macron, lui, est plus prudent que son ministre. Il se rend compte que la colère gronde dans le pays sur cette question de taxation des super-profits. Il préfère botter en touche c'est-à-dire pour le coup en Europe, en fait, en espérant qu'une position commune européenne sera prise pour taxer les super-profits. Pas tout de suite de préférence. Reconnaissons-le, Macron a promis d'y réfléchir. S'il n'y a pas d'accord, pas trop vite quand même.
Ceci nous permet d'aborder le point suivant. Moins spectaculaire que les super-profits, c'est la baisse de l'imposition continue sur les sociétés.
Oui, alors beaucoup moins spectaculaire que les super-profits, mais tout à fait régulier.
Notamment la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises...
Ça s'appelle CAVAE, c'est la cotisation pour la valeur ajoutée des entreprises, en effet.
D'accord.
En 2022, la baisse des impôts sur les sociétés est passée de 33,3% à 25%. Ce n'était pas suffisant pour nos libéraux de service. L'Observatoire de la justice fiscale, encore lui, relève que dans la loi de finances et le budget 2023 est prévue la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Première victime de cette décision, les collectivités territoriales, puisque cette cotisation leur était affectée. Objectif du gouvernement, rendre plus attractifs les territoires avec moins de taxes pour les investisseurs étrangers. Question, j'ai pas déjà dit ça, que c'était faux complètement cette affirmation.
Oui.
Le vrai avantage pour le gouvernement, c'est avoir un peu plus la main sur les finances locales en se gardant la répartition des pouvoirs. Ils ont déjà fait le coup et ça recommence avec la suppression de la CVAE. Mais nous pouvons peut-être compter sur la mission d'information sur la question de la fiscalité des entreprises, a déclaré Éric Coquerel, dont je rappelle ici qu'il est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il n'est pas normal, en effet, que les PME payent en gros 25% d'impôts en France, alors que les 300 plus grosses entreprises en payent 17% et que les entreprises du CAC 40, comme Total, ne payent pas d'impôts, explique le président. Taxer les super-profits aujourd'hui et mieux taxer les profits à l'avenir, une idée qui fait son chemin. Pour vous renseigner, l'Observatoire de la fiscalité, une mine d'informations à jour sur le site de franceattaque.org.
Bien, maintenant, un petit mot sur l'université d'été des mouvements sociaux à Mönchengladbach.
C'est imprononçable de toute façon.
Voilà. Du 17 au 21 août 2022, bon, c'était en Allemagne.
Oui, c'était en Allemagne. Tout le monde connaît le Borussia Mönchengladbach qui a fait florès une époque sur la Coupe d'Europe, mais des clubs. Mais ici, c'était les mouvements sociaux. Donc, 600 participants ont pu participer à l'événement. Une centaine d'événements durant 5 jours, une dizaine d'ateliers, 80 ateliers en fait, des excursions, des luttes aussi, puis évidemment a été évoquée la guerre en Ukraine, en 3 langues d'ailleurs, anglais, allemand et français. Ça s'est très bien passé sur ces coups-là. Les forums, bien sûr, toujours dans l'université d'été, sur des thèmes qu'on peut imaginer, la démocratie, le logement, l'intersectionnalité, c'est plus nouveau, le climat, les transports, le capitalisme, la guerre et la paix, l'extrémisme de droite. C'est Antoine qui nous a donné ces infos, on le remercie, et qui nous a également signalé que 2 groupes antifascistes ont été créés. Ils ne seront pas de trop quand on voit la montée des post-fascistes en Italie, le résultat des néo-nazis, qui s'appellent démocrates en plus aux élections en Suède. Attaque locale pour finir.
Oui, alors attaque locale contre l'agression israélienne dans la bande de Gaza.
Oui, on était plusieurs militants d'Attaque Lille qui, pour avoir participé au mois d'août au rassemblement organisé par l'association France-Palestine Solidarité, la communauté palestinienne du Nord et l'Union départementale CGT pour protester contre ce dernier massacre de l'armée israélienne à Gaza et à manifester notre soutien au peuple palestinien. On rappelle le très lourd bilan de cette agression qualifiée de préventive par le gouvernement israélien contre une menace du djihad islamique, il y a que qu'ils l'ont vu apparemment. Ça fait 45 morts, dont 16 enfants, 360 blessés, une centaine d'enfants qui seront pour certains amputés. Voilà. Alors, j'ai un mot de conclusion, si j'ai encore une seconde. Vous avez Yolande, Aurélien et Bénédicte, et nous-mêmes d'ailleurs, un allié certain avec Yassina Maheb du GIEC, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous dit, dans une émission jeudi soir à la télévision Cache Investigation, elle dit tout simplement, il faut arrêter de construire des logements en Europe, y compris la reconstruction sur des bâtiments, sur des zones artificialisées. C'est plus possible. C'est ça la lutte qui est pour le 2050 ou pas.